VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 22 mai 2023. Ici aux États-Unis, à 10 jours d'un défaut de paiement, le président Joe Biden tente à nouveau de trouver un compromis avec Kevin McCarthy. Au Guyana, au moins 19 jeunes meurent dans l'incendie d'un dortoir scolaire. Sur le continent, au Burkina, deux attaques ont endeuillé à nouveau le pays, dont l'une dans l'Est a fait 15 morts. Au Soudan, la guerre fait rage en attendant la trêve promise dans la soirée ce lundi. Au Nigeria, le président Buhari inaugure une méga raffinerie censée régler les problèmes de carburant récurrents dans le pays.
Si tout le monde, différentes personnes comme Dangote, acceptent l'idée d'essayer d'investir dans un secteur de l'économie ou un autre pour améliorer la vie des gens, je pense qu'il n'y a rien de mal dans ça. Si quelqu'un a la capacité de le faire, c'est bien.
Un reportage de notre correspondant à Abuja à suivre dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Après un week-end de blocage, les discussions reprennent entre Joe Biden et Kevin McCarthy, son principal opposant républicain sur le plafond de la dette, pour tenter de trouver rapidement un accord et éviter un défaut de paiement aux États-Unis. Les précisions de John Lindon.
Les deux hommes se sont parlé dimanche pendant le retour de Joe Biden après les sommets du G7 au Japon. Kevin McCarthy et Joe Biden ont évoqué une discussion productive et les équipes des deux camps ont dans la foulée repris les discussions. Ce signal positif est le premier depuis une rencontre entre négociateurs démocrates et républicains vendredi à la Maison-Blanche qui a tourné au vinaigre. Les républicains exigent, pour donner leur feu vert, une réduction des dépenses fédérales. L'administration Biden refuse, elle, et propose de réduire certaines dépenses tout en augmentant les impôts pour les plus riches et les entreprises. Joe Biden a lui averti qu'il refuserait un accord qui profite en milliards de dollars de subventions aux grandes sociétés pétrolières, tout en mettant en danger les soins de santé des 21 millions d'Américains. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a de nouveau tiré la sonnette d'alarme sur la date fatidique du 1er juin, avec ses risques de défauts de paiement pour les États-Unis.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a signé aujourd'hui un pacte de sécurité avec Washington qui donne aux forces américaines l'accès aux ports et aéroports de ce pays du Pacifique où les États-Unis cherchent à contrer l'influence de la Chine. L'accord a été signé par le chef de la diplomatie américaine et le ministre de la Défense de Papouasie-Nouvelle-Guinée avant l'ouverture du forum États-Unis-Îles du Pacifique avec les dirigeants de 14 États insulaires du Pacifique Sud à Port Moresby. 19 personnes, dont une majorité d'enfants, sont mortes dans l'incendie d'un dortoir d'une école à Mahdia, une ville minière enclavée dans le centre du Guyana, ancienne Guyane anglaise, en Amérique du Sud. Mouhamadou Mfa.
19 jeunes sont morts dans l'incendie d'un dortoir scolaire dans le centre du Guyana, à Mahdia, selon un bilan des pompiers lundi matin. 14 jeunes sont morts sur place, 5 sont décédés à l'hôpital du district de Mahdia, 2 enfants sont toujours dans un état critique, tandis que 4 souffrent de graves blessures, selon un communiqué des pompiers. Un précédent bilan faisait état de 20 morts. J'ai ordonné que des dispositions spéciales soient prises dans les deux grands hôpitaux de la capitale, afin que chaque enfant qui a besoin d'attention reçoive les meilleurs soins possibles, a déclaré le président Irfan Ali depuis l'aéroport de Georgetown, la capitale, où il s'est rendu pour attendre les secours. Cet incendie se classe parmi les plus meurtriers des 30 dernières années dans les dortoirs scolaires. Dans la nuit du 25 au 26 mars 2001, après un incendie dans le dortoir d'une école secondaire près de Nairobi, 58 corps calcinés de garçons ont été retirés des décombres, tandis que 9 lycéens sont morts à l'hôpital des suites de leurs blessures.
L'ultranationaliste Sinan Ogan, troisième homme de la présidentielle en Turquie, a annoncé aujourd'hui qu'il soutiendra le président sortant Recep Tayyip Erdogan au second tour de l'élection présidentielle dimanche. Fort de 5,2% des voix recueillies au premier tour le 14 mai, le quinquagénaire dissident du parti d'extrême droite, MHP, était courtisé par les deux finalistes de l'élection. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, dont le parti conservateur a remporté dimanche une large victoire aux élections législatives, mais sans majorité absolue, a refusé aujourd'hui de former un gouvernement de coalition et souhaite la tenue de nouvelles élections le 25 juin prochain. Nouvelle démocratie, le parti conservateur au pouvoir en Grèce, a obtenu 40,8% des voix aux élections législatives, loin devant le parti de gauche, Syriza, de l'ancien chef du gouvernement Alexis Tsipras, crédité de 20,1%. Le président iranien Ibrahim Raisi a nommé aujourd'hui Ali Akbar Ahmadian, un général des gardiens de la révolution, à la tête de la plus haute instance sécuritaire, remplaçant Ali Shamkhani, qui a contribué au rapprochement avec les pays arabes du Golfe. Cette instance stratégique est chargée de définir les politiques de défense et de sécurité de l'Iran. Ces décisions sont avalisées par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, au Burkina Faso, une quinzaine de civils, majoritairement des bergers, ont été tués dimanche dans une attaque dans l'est du pays, près du Togo et du Bénin. Une autre attaque vendredi a aussi endeuillé le nord du pays. Le point avec Nani Talani.
Dimanche, plusieurs dizaines de terroristes ont attaqué les quartiers périphériques de Kompienga, chef-lieu de la province éponyme, faisant une quinzaine de morts, ont indiqué des habitants. Selon eux, les victimes sont essentiellement des bergers exécutés par les assaillants qui ont emporté leur bétail. Une deuxième incursion d'hommes armés a eu lieu dans la soirée, occasionnant un départ massif de certains habitants fuyant les coups de feu, disent les mêmes sources. Par ailleurs, selon un de nos correspondants au Burkina, le village de Nongferé, dans la province du Yatinga, dans le nord du pays, a été la cible d'une autre attaque des groupes armés vendredi, tuant 25 personnes, dont des femmes et des enfants, selon des sources locales. Les assaillants sont venus très tôt le matin et après le massacre, ils ont incendié des maisons et des boutiques, puis ont emporté des biens de villageois. Quelques 70 civils sont morts la semaine passée dans plusieurs attaques. Samedi, les autorités ont organisé une journée de jeûne et de prière pour un retour rapide et définitif de la paix dans le pays.
Les combats font toujours rage au Soudan, à quelques heures de l'entrée en vigueur d'un nouveau cessez-le-feu d'une semaine. Les deux belligérants ont annoncé par communiqué vouloir respecter cette toute dernière trêve. Alexandrine Oulougnon.
Le cessez-le-feu d'une semaine, censé entrer en vigueur ce soir, a été obtenu après deux semaines de négociations en Arabie Saoudite. Mais à Khartoum, les habitants disent ne voir aucun signe d'arrêt des combats. Raids aériens et explosions ont de nouveau frappé la capitale soudanaise ce lundi. Depuis le début de la guerre, le 15 avril dernier, une dizaine de cessez-le-feu ont été promis et aussitôt violés. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite assurent que cette fois, il y aura un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu regroupant des représentants des deux camps. Les combats entre l'armée et les paramilitaires ont fait un millier de morts et plus d'un million de déplacés et de réfugiés. L'ONU signale que si le conflit se poursuit, 1 million de Soudanais supplémentaires pourraient se réfugier dans les pays voisins.
Le chef de la mission de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, a dit aujourd'hui craindre devant le Conseil de sécurité une ethnicisation, j'y arrive, du conflit dans le pays. Le représentant spécial de l'ONU a de nouveau plaidé pour le respect d'un cessez-le-feu à quelques heures de son entrée en vigueur prévue à 19h45 GMT. Quelques 860 civils, dont 190 enfants, ont été tués depuis le début du conflit et 3500 civils blessés selon des chiffres cités aujourd'hui par l'émissaire de l'ONU. Le gouvernement de la RDC a déploré aujourd'hui à Genève que la communauté internationale concentre son soutien à l'Ukraine au lieu d'aider son pays pour lequel l'appel humanitaire de l'ONU est financé à seulement 20%. C'est une crise négligée par rapport à la réaction mondiale vis-à-vis de l'Ukraine qui n'a pas plus de morts qu'en République démocratique du Congo, a déclaré le ministre congolais de la solidarité Modeste Mutinga lors d'une conférence de presse. À ses côtés, le coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis, a souligné que l'ONU n'avait recueilli que 2,25 milliards de dollars demandés pour l'année dans le pays. Des dizaines de journalistes se sont rassemblés aujourd'hui à Tunis pour manifester contre l'audition par la police de deux journalistes de Mosaïque FM, une radio privée. Les deux journalistes ont été convoqués à la suite d'une plainte déposée par un syndicat de police pour avoir évoqué dans leur émission le 15 mai des défaillances de recrutement dans les services de sécurité de la police.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique.
À présent, la Minute Écho avec Nani Talani.
Le président Félix Tshisekedi a exprimé sa volonté de consolider et élargir la coopération entre la RDC et un consortium chinois dans le cadre d'un contrat signé par son prédécesseur en 2008. Ce contrat a été négocié sous forme de troc, cobalt et cuivre contre la construction d'infrastructures pour 9 milliards de dollars, puis renégocié à 6 milliards de dollars sous pression du FMI. La partie chinoise a déjà décaissé près de 2,74 milliards sous forme d'investissement. D'ailleurs, Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères, effectue une visite en Chine. La gomme arabique, ingrédient des boissons gazeuses ou chewing-gum, est menacée par la guerre au Soudan. Depuis mi-avril, ses stocks sont au cœur des combats. Les étrangers qui l'achetaient ont été évacués et les prix ont chuté. C'est une catastrophe pour les producteurs et les Soudanais qui tiraient des revenus de la production de ces cristaux de sève d'acacia durci. Avant la guerre, la gomme arabique du Soudan représentait 70% des exportations brutes mondiales. Pour terminer, le président nigérian Muhammadu Buhari inaugure ce lundi à Lagos la méga raffinerie du milliardaire Aliko Dangote qui ambitionne d'avoir la plus grande capacité de raffinage d'Afrique et de réduire la dépendance du Nigeria aux carburants importés.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le football espagnol rattrapé par les vieux démons du racisme.
Le championnat d'Espagne de football est de nouveau confronté au fléau du racisme dans ses stades après les nouvelles insultes proférées dimanche soir à Valence contre l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior, qui ont suscité une vague d'indignation dans le milieu du foot et au-delà. La fédération est consternée par ce qui s'est passé. Ces attitudes doivent être éradiquées, a réagi dans la nuit la fédération espagnole. Elle demande également l'adoption de mesures plus énergiques qui pourraient aller jusqu'à la fermeture de tribunes, voire de stades en cas de récidive, ainsi que la saisine de la Commission d'État contre la violence, la xénophobie et le racisme dans le sport. Le placide entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est sorti de ses gonds en conférence de presse, estimant que le championnat d'Espagne avait un problème avec le racisme. Même constat du président de la Fédération espagnole qui a admis que le football avait un problème de racisme dans son pays.
Playoff de NBA, Miami enfonce Boston et s'approche à grands pas de la finale.
Le Heat n'est plus qu'à une victoire de sa 7e finale NBA après avoir concassé 128-102. Les Celtics, dimanche, en faisant une démonstration de force et d'abnégation collective, tout le contraire de leur victime trop consentante, logiquement au bord de l'élimination en playoff. Miami mène désormais 3-0 dans cette série à sens unique, ce qui n'était pas forcément attendu de la part de la tête de série numéro 8, qui avait dû en passer par deux matchs de barrage 6 semaines plus tôt. Mais les joutes du printemps ont le don de transfigurer l'équipe floridienne, dont la combativité de tous les instants, sa vertu première, ne demande alors qu'à se déchaîner. Pour inverser une situation extrêmement mal embarquée, les Celtics, à l'instar de Lakers, menés également 3-0 par Denver à l'ouest, sont désormais contraints de remporter les 4 rencontres suivantes, un exploit qui ne s'est jamais produit dans l'histoire.
Jeux olympiques 2024, la polémique sur les prix des billets fissure l'idée de jeux populaires.
Les organisateurs des JO 2024 de Paris, malgré un engouement évident, affrontent depuis près de 10 jours une nouvelle salve de critiques sur les prix des places, y compris cette fois de la part d'athlètes qui mettent à mal leurs promesses de jeux populaires. Pour cette deuxième phase de vente qui a débuté le 11 mai, les organisateurs avaient décidé de vendre près de 1,5 million de billets à l'unité pour, après avoir écoulé plus de 3 millions lors de la première phase par pack. Sur le million de places à 24 euros pour ces JO, le tarif le plus bas, près de 150 000, ont été mis en vente pour cette deuxième phase. Les billets accessibles à 24 euros existent, mais ils partaient trop vite.
Page de sport VO Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Nigeria a mis en service aujourd'hui la raffinerie géante de l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Cette méga raffinerie devrait réduire les importations en produits pétroliers dans un pays où les ressources exploitées sont jusqu'ici exportées à l'état brut. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Elle est située dans la vaste zone industrielle de Lekki, à Lagos, la capitale économique du Nigeria, couvrant une superficie de plus de 2000 hectares. La raffinerie de Dangote est considérée comme la plus grande raffinerie à trait unique au monde, avec une capacité de production de 650 000 barils par jour. La raffinerie est alimentée par une centrale électrique de 435 MW et pourra, selon les experts, répondre à 100% aux besoins nigériens en produits raffinés et même produire un excédent pour les exportations. Les Nigériens que nous avons rencontrés s'en félicitent.
C'est une nouvelle qu'il faut accueillir positivement. En fait, en le faisant, probablement, considérant la situation actuelle des choses, la nouvelle administration qui sera investie bientôt pourra au moins en profiter pour supprimer la subvention au carburant ou même ne pas y penser du tout.
C'est une bonne chose et je pense que les Nigériens ont besoin de plus d'incitatives comme celle-là. Si nous pouvons reproduire cela dans tous les États et que nous avons la capacité d'apporter la main-d'œuvre pour la maintenance, parce que le problème que nous avons, ce n'est pas d'avoir des infrastructures. Nous avons des infrastructures incroyables au Nigeria, mais c'est l'entretien qui est le problème.
Le Nigeria, grand producteur de brut, est dépendant des produits pétroliers raffinés importés en raison du manque de capacité de raffinage au niveau national. La raffinerie de Dangote doublera la capacité de raffinage du Nigeria et contribuera à répondre à la demande intérieure croissante de carburant. Enofela Benjamin, conducteur de taxi à Abuja.
Si tout le monde, différentes personnes comme Dangote, acceptent l'idée d'essayer d'investir dans un secteur de l'économie ou un autre pour améliorer la vie des gens, je pense qu'il n'y a rien de mal dans ça. Si quelqu'un a la capacité de le faire, c'est bien. Après tout, le gouvernement a été incapable de faire ce qu'il devait faire il y a longtemps. Donc, il sent qu'il peut investir et faire des profits, mais à long terme, les Nigériens en profiteront également. Je ne pense pas que cela soit une mauvaise idée.
En plus des milliers d'emplois directs qui seront créés, la raffinerie de Dangote et le complexe pétrochimique devraient générer environ 100 000 opportunités d'emploi indirects, contribuant ainsi à la croissance économique et au marché du travail du Nigeria. Bakary Elemo, économiste.
Le premier impact sur les Nigérians est que les prix du carburant ou du gaz vont baisser et cela incitera même le gouvernement à supprimer la subvention. Parce que depuis plus d'une décennie, le Nigeria importe du carburant raffiné et cela va aussi aider à générer des revenus supplémentaires pour le gouvernement.
Le Nigeria importe actuellement plus de 70% de ses produits pétroliers raffinés, ce qui en fait l'un des plus grands importateurs de pétrole raffiné en Afrique. Une donne qui devrait changer cette nouvelle raffinerie, c'est du moins l'espoir de beaucoup de Nigériens. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Les Nations Unies s'inquiètent du fait que la violence dans la région du Darfour occidental au Soudan pourrait s'étendre aux pays voisins, alors que le chef de la police tchadienne a déclaré à la VOA qu'il exhorte les citoyens à rester calmes. Le reportage d'Henry Wilkins de la VOA, le récit avec Azuma Compaoré.
Dans la ville de Koufroun, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, on entend des coups de feu provenant de la ville de Tindelti, à environ 900 mètres à l'est. Des combats ont éclaté dans la nuit entre des groupes armés arabes et des civils noirs soudanais qui tentaient de se défendre contre ce qu'ils appelaient des janjaweeds. Un homme blessé par balle à l'épaule gauche dit qu'il y a eu des affrontements de l'autre côté de la frontière et que des hommes armés sont entrés dans la ville.
Il y a eu des affrontements à la frontière et certains hommes armés sont entrés dans la ville. Certains d'entre nous ont essayé de se défendre.
Un véhicule arrive pour emmener le blessé au centre médical le plus proche. Les analystes estiment que les violences intercommunautaires au Darfour occidental, déclenchées par le conflit interne au Soudan qui a débuté le 15 avril, sont susceptibles de s'étendre au-delà de la frontière avec le Tchad. Bakri El Medni, professeur d'administration publique à l'Université de Long Island aux États-Unis, est un spécialiste de la résolution des conflits et du Soudan.
Le fait est qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Europe, des États-Unis ou de qui que ce soit que le Soudan continue à être en conflit, car il est certain à 100% que la poursuite et la prolongation du conflit au Soudan aura des répercussions.
De retour à Kufrun, le chaos s'installe parmi les milliers de réfugiés soudanais qui ont fui au Tchad. Les corps d'amis et de parents commencent à arriver de l'autre côté de la frontière. Les réfugiés ont tiré les chemises sur les visages des défunts des linceuls de fortune. La VOA a compté au moins 3 corps. Pour certains, ces scènes sont trop fortes. Les analystes soulignent que la guerre du Darfour en 2003 s'est rapidement étendue à cette région du Tchad. Khoinati Remadji est analyste à l'Institut d'études et de sécurité basé au Tchad.
C'est quelque chose de très dangereux et qui peut très facilement étendre les combats au Tchad en raison de la composition de la présence des forces elles-mêmes. C'est très ethnique.
Les forces de sécurité tchadiennes commencent à évacuer la foule alors que d'autres corps arrivent. Plus tard dans la journée, le chef de la police tchadienne, Hamid Doudoua, a fait ce commentaire à la VOA sur les événements qui se sont déroulés à Kufrun.
S'il s'avère que ce sont les rebelles soudanais qui ont tiré et non le gouvernement soudanais, je vous dirais que toutes les mesures ont été prises. Tout est sous contrôle maintenant. Donc, si vous avez vu ce qui s'est passé, cela ne se reproduira pas. Là où ils l'ont vu venir, des mesures ont été prises pour le maîtriser. Restez calme et marchez. Restez calme.
500 mètres à l'intérieur du Tchad, une balle touche le sol et une autre passe à proximité. Certains membres de la foule ont commencé à paniquer et à battre en retraite. Sécurité oblige, le reporter se résout à quitter la zone.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Des hélicoptères russes sont arrivés au Zimbabwe le 18 mai dernier, ce qui, selon les autorités, fait partie des efforts déployés par la Russie pour renforcer les relations entre les deux pays. Le reportage de Kev Baptiste, depuis Harare, le récit avec Thierry Kaori.
La Russie a organisé une cérémonie de remise de 18 hélicoptères médicaux de sauvetage aérien au gouvernement zimbabwéen à l'aéroport international du pays le 18 mai. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a déclaré que les hélicoptères aideraient à répondre aux catastrophes et seraient utilisés par les forces de police du pays. Il a également profité de l'occasion pour dénoncer les sanctions imposées de longue date par les États-Unis et d'autres pays pour l'usage de la violence contre les manifestants et les opposants politiques.
Cela fait maintenant 23 ans que nous subissons ce fardeau. Dans ce processus, bien sûr, nous avons accès à la science et à la technologie des pays qui sont prêts à nous soutenir. Et la Fédération russe est l'un d'entre eux.
L'ambassadeur de Russie au Zimbabwe a déclaré que la livraison faisait partie d'un ensemble de 32 hélicoptères qui seront fournis au pays d'ici 2025. La valeur totale de ces appareils s'élève à 320 millions de dollars. Sergei Chemzov, allié du président russe Vladimir Poutine et président directeur général du conglomérat de défense Rostec, qui fabrique les hélicoptères, a également pris la parole lors de l'événement. Il a remercié le Zimbabwe pour son soutien diplomatique.
Je dois souligner que le Zimbabwe est l'un des pays qui n'a pas soutenu les actions anti-russes sur la scène politique internationale. De son côté, la Fédération de Russie est toujours prête à donner un coup de main à ce pays ami.
Jeffrey Smith, militant des droits de l'homme et de la démocratie au sein de l'association Vanguard Africa, explique que la Russie a besoin d'alliés en Afrique et que les deux nations ont beaucoup de points de vue communs.
Ils sont tous deux isolés sur le plan international en raison de leurs dirigeants antidémocratiques et du fait qu'ils sont soumis à un régime oppressif, autocratique et kleptocratique. Ils ont beaucoup plus de points communs que de différences.
Certains analystes affirment que la Russie cherche à étendre son influence en Afrique. Oleksandr Kovalenko est un observateur militaire et politique du groupe Information Résistance, une organisation ukrainienne à but non lucratif qui lutte contre la propagande russe.
Pour la Russie, l'Afrique est un tremplin très important pour étendre son influence, non seulement politique, mais aussi militaire et surtout pour accroître ses ressources.
Les détracteurs de l'accord soulignent que le Zimbabwe est riche en ressources naturelles telles que les diamants, le platine, l'or et le cuivre, qui sont d'un grand intérêt pour la Russie. Alors que la guerre en Ukraine et les sanctions internationales continuent de peser sur Moscou, les experts estiment que la Russie continuera à faire des incursions diplomatiques dans les pays africains.
Le week-end a été riche en actions à Kigali au Rwanda avec le début des play-offs de la saison 3 de la Basketball Africa League. Les rencontres des quarts de finale ont désigné les quatre qualifiés pour le dernier carré. Pour deux places en finale, le stade malien de Bamako fera face à Al Ahly d'Égypte et l'AS Douane défiera Petro de Luanda. Nous revenons sur les faits marquants des quarts de finale à la Kigali Arena avec nos envoyés spéciaux Cheikh Tiro et Yakuba Ouedraogo.
Abidjan Basketball Club, Petro de Luanda demeure le match qui aura plus fait vibrer la Kigali Arena. Annoncé favori sur papier, les Angolais ont souffert jusqu'au bout avant de s'imposer 88-84 devant les Ivoiriens. ABC Fighters de Côte d'Ivoire peut nourrir des regrets car tout s'est joué dans les 5 dernières secondes. En conférence de presse après match, le Nigérien d'ABC, Abdoulaye Haruna, ne peut terminer sa phrase avant de fondre en larmes.
Je ne vais pas mentir, ça fait très mal. C'est ma troisième fois.
Oui, la troisième fois que le Nigérien participe à la balle et la troisième fois qu'il ne verra pas les demi-finales. Pour le consultant en basketball, Malik Diaw, ABC n'a pas à s'en vouloir vu la qualité de l'effectif de Petro.
La surprise, c'était l'écart. Parce que tout le monde voyait l'ABC prendre une déculottée, mais les Fighters, conformément à leur surnom, ils se sont battus et il leur a manqué, on va dire, de l'ancien temps. Mais cette équipe du Petro, même quand elle ne joue pas bien, elle a une qualité que les autres n'ont pas, c'est la culture de la gagne.
En demi-finale, Petro de Luanda, l'équipe tant redoutée qui a montré des limites devant les Ivoiriens, aura encore fort à faire face aux Sénégalais de l'AS Douane. En quart de finale, les Gabelous ont vite montré qu'ils étaient un cran au-dessus des Mozambicains de Ferroviário da Beira, s'imposant avec 20 points d'écart, 93-73. L'un des artisans de cette victoire sénégalaise, c'est Jean-Jacques Boissy, qui a inscrit 15 points, mais surtout qui a muselé l'homme à tout faire des Mozambicains, Will Perry.
À chaque match que je viens, j'essaie de défendre le meilleur joueur de l'équipe. Même si j'ai 0 points, je ne calcule pas ça. J'essaie de défendre le meilleur joueur de l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, il a eu 10 points. Il mettait 50 ou 30. Du coup, mon objectif est atteint personnellement.
Dans les premiers quarts de finale disputés samedi, le stade malien de Bamako s'est fait un peu peur avant de maîtriser les Sud-Africains de Cape Town Tigers 78-69. John Wilkins, qui est venu renforcer cette équipe malienne pour les playoffs, averti.
Je pense qu'on a eu un petit relâchement. L'équipe de Cape Town a pris confiance. Bon, à la fin, on a eu la victoire, mais bon, je pense qu'à l'entraînement, on va régler certains trucs en défense, car c'est ça qui gagne un championnat à la fin. L'attaque gagne des matchs, mais la défense gagne des championnats.
Le stade malien devra sans doute être beaucoup plus vigilant en demi-finale, car il y a la montagne à l'Ali du Caire à surmonter. Les Égyptiens ont battu le club hôte Rwanda Energy Group en quart de finale, 94-77, et n'ont pas célébré. Nous n'avons d'autre objectif que de remporter le trophée, confie le jeune joueur de la balle Elevate, Draman Camara.
Pour nous, déjà content de faire partie de cette équipe. Et c'est vraiment un parcours incroyable qu'on fait. Pour l'instant, on gagne beaucoup de matchs, on en a perdu un, et on espère continuer comme ça, et aller jusqu'au bout et gagner le titre.
Les deux demi-finales se disputeront ce mercredi, date à laquelle on connaîtra les finalistes de cette Basketball Africa League, saison 3. Yakuba Ouedraogo, Cheikh Tiro, VOA Afrique, Kigali.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.